BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Ronald Guintrange, Dominique Rizet.
Dimanche 23 mars, il est 13h. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans l'affaire suivante numéro 290. Au sommaire aujourd'hui, un paysagiste mis en examen dans l'Hérault, accusé par deux femmes. L'homme de 34 ans a rapidement avoué en garde à vue une quinzaine de viols sous soumission chimique. Plusieurs des victimes présumées sont mineures. Et la liste, nous en parlerons évidemment, pourrait encore s'allonger. Connaîtra-t-on un jour les circonstances de la mort de Céline Giboire? Le 28 février 2012, cette lycéenne rennaise est retrouvée morte au pied de la falaise des Corbières. C'est à Saint-Malo, à 70 km de là. L'enquête ouverte à l'époque pour viol et homicide n'a jamais été refermée. Un huitième juge d'instruction est désormais en charge de faire la lumière sur cette affaire. Et puis, il a été juge d'instruction, procureur de la République, procureur général. Il a terminé sa carrière avec l'affaire de la petite Maëlys, s'est penché sur le corps sans vie du préfet de Corse, Erignac, et il a participé à la création du Paul Cold Case de Nanterre. Il, c'est Jacques Dallest. Il publie Sur les chemins du crime. Jacques Dallest est l'invité d'affaires suivantes qui débute maintenant. Affaire suivante, ravi de vous accueillir en compagnie aujourd'hui de Laurent Valdiguier. Bonjour Laurent.
Bonjour Ronald.
On va donc débuter avec cette affaire qui fait suite à l'affaire Gisèle Pélicaud et qui met en lumière ce type d'agression. Affaire suivante revient donc sur ce nouveau cas édifiant de soumission chimique. Cette fois, c'est dans l'Hérault. Un homme de 34 ans, paysagiste sans antécédent judiciaire, a avoué une quinzaine de viols. Les effets de la cocaïne, selon lui. Les derniers éléments rassemblés par Elisa Tranin pour affaire suivante.
Les enquêteurs sont en train d'identifier les victimes présumées. Elles sont une quinzaine, dont des mineures, toutes susceptibles d'avoir été violées par le même homme, un paysagiste de la région de Montpellier, interpellé mi-mars. Le 24 janvier dernier, une femme se présente dans une gendarmerie de l'Hérault. Elle explique avoir pris un café avec le paysagiste de ses parents à leur domicile, quand celui-ci, prétextant un mal de tête, lui a demandé du paracétamol.
Elle se lève pour aller chercher un cachet, elle s'absente, et elle dit ensuite, elle raconte qu'elle a eu une perte de mémoire à compter de ce moment précis, mais que surtout elle s'est réveillée dans son lit. Conduite à l'hôpital, elle a fait des analyses qui ont révélé qu'elle avait des benzodiazépines dans ses urines alors qu'elle ne prenait pas ce traitement. Ce sont des médicaments, des anxiolytiques qui servent normalement à traiter l'anxiété et qui peuvent provoquer des troubles de mémoire.
Le même jour, une seconde femme rapporte aux gendarmes le même type de fait. Les investigations permettent alors de retrouver une autre plainte datant d'octobre 2024. Le récit de la victime est à peu près similaire. Le jardinier est bien le même, un homme de 34 ans, habitant à Saussan.
Non, jamais on n'aurait pensé ça. Non, surtout qu'on est quand même papa d'une petite, enfin de deux enfants, de trois ans, il y a de quelques mois. Et jamais on aurait vraiment pensé ça, quoi.
Placé en garde à vue, ce père de famille a reconnu avoir violé une quinzaine de personnes en les droguant pour altérer leur discernement. Il a filmé ses actes. Selon des témoignages, ce Tahitien se serait également introduit dans la chambre d'une petite fille. En détention provisoire depuis 10 jours, il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion.
Laurent, voilà pour les faits. On va en parler avec trois personnes sur le plateau. Tout d'abord, Laura Cambeau. Bonjour Laura, journaliste BFM TV. On a vu votre main, vous étiez la première journaliste à vous rendre sur le terrain. Vous allez nous expliquer ce qu'on vous a raconté sur place. Bonjour Fabien Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau. Vous êtes journaliste à Midi Libre. Et bonjour Jérôme Moreau.
Bonjour.
Porte-parole de France Victime. Je vais débuter avec vous Laurent. Laura, pardon, on vous appelle, vous vous rendez sur place. À quoi ressemble cette commune de Saussan? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce que vous ressentez sur place?
Alors déjà, pour le contexte, en effet, donc on a lu l'article de Midi Libre, qui est donc le premier média à s'être emparé du sujet. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe des coups de téléphone un peu pour se rendre compte d'où est-ce que ça se passe, parce qu'on sait que c'est à l'ouest de Montpellier, on ne sait pas exactement. Donc on se rend compte rapidement, en passant des coups de téléphone aux paysagistes de la région, qu'on nous dit que c'est à Saussan, donc un petit village de 1700 habitants. Donc avec mon collègue Bastien Dufour, on se rend sur place, on arrive et tout de suite, on remarque qu'il y a une forte tension, puisqu'il y a le buraliste. On arrive, il se braque, il nous dit « moi je veux pas parler, moi je veux rien dire ». Et en parlant aux personnes, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui en fait ils ont assisté à cette interpellation qui s'est passée donc, à la maison du suspect, à son domicile. Et donc toutes les personnes commencent à nous en parler, on va voir à ce moment-là les voisins et tout le monde est sous le choc.
C'est vrai que ça fait penser à l'affaire Pédicot, puisque c'est des soumissions chimiques. Ça a duré longtemps, on ne sait pas vraiment combien de temps, mais ça a apparemment duré longtemps. Il avoue. Et puis apparemment, il filmait aussi, c'est ça ?
Il filme ses victimes. Il est sous cocaïne, comme certains accusés de l'affaire Pélicot. Et il agresse surtout des victimes d'âge très, très différents. Depuis la plus âgée, qui aurait 80 ans, et la plus jeune dont nous avons vraiment connaissance, c'est 17 ans. Une jeune fille qui dormait dans le domicile de ses parents, qui n'était pas là, et chez qui il s'est introduit.
Ça commence comment ? Ce sont deux femmes qui viennent, qui parlent, et en fait, ça fait écho à une plainte qui n'a pas abouti. C'est comme ça que ça se passe ?
Tout à fait. C'est le 24 janvier, deux femmes d'une soixantaine d'années, qui se présentent à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, et qui décrivent la même histoire, à savoir que leur paysagiste est venu chez elles faire des travaux. Elles ont bu un café avec lui, elles se sont senties mal, elles ont une perte de mémoire, elles se réveillent dans leur lit. Et les gendarmes font des recherches et ils tombent sur une plainte d'octobre 2024, cette fameuse octogénaire.
Mais on comprend pourquoi en octobre il ne s'est rien passé, parce qu'en octobre, apparemment, cette première femme désignait ce paysagiste.
Elle le désignait, effectivement. Donc il faudra voir comment les choses se sont passées à la suite de cette plainte. Est-ce que déjà des recherches étaient engagées ? Qu'est-ce qui a été fait ? Nous, à Midi Libre, on prend l'affaire il y a une semaine exactement. Mmh. Un dimanche et le lendemain, le procureur nous confirme cette information avec l'incarcération de cet homme qui était en garde à vue depuis deux jours.
Jérôme, ça ressemble étrangement à d'autres affaires que vous venez commenter sur le plateau de BFM TV. Des victimes variées, la cocaïne, les films, une ou des premières plaintes qui ne sont pas prises en compte.
Oui, il y a deux difficultés dans l'histoire de la soumission chimique. C'est que tout d'abord, les victimes n'ont que très très peu de souvenirs, voire aucun. C'est un mode opératoire. Il faut bien comprendre que c'est un mode opératoire qui consiste en fin de compte à faire que les victimes ne se souviennent pas, parce que l'objet de l'agresseur, c'est de multiplier les crimes, puisqu'en l'occurrence, ce sont des faits criminels, et donc d'échapper à toute sanction et à toute justice. Et donc, l'une des possibilités de ce mode opératoire, c'est d'annihiler, d'aboliser, tout simplement, la possibilité pour les victimes de se souvenir. Et puis, la deuxième chose, c'est que on va instruire, on va enquêter, mais avec des problématiques très 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 directes et qui vont être très compliquées à lever. La soumission chimique, de toute façon, il faut pas se leurrer. Les drogues disparaissent très très vite dans le corps. C'est une course contre la montre, en fin de compte, pour les victimes, pour pouvoir avoir des examens et des expertises qui vont pouvoir prouver que vous avez été victime d'un traitement médicamenteux, de drogue. Et donc, on a 5 jours à peu près, et encore, dans le meilleur des cas. Les cheveux, c'est 1 mois, donc il faut que les victimes aillent vite. En plus, il faut souvent qu'elles ne se douchent pas, qu'elles ne se lavent pas la bouche, alors que c'est des réflexes immédiats et tout à fait légitimes des victimes. Donc, c'est très compliqué à instruire. Et ce qui... Enfin, une des possibilités, c'est qu'effectivement, il y ait plusieurs plaintes et qu'on puisse avoir plusieurs victimes qui vont raconter la même histoire, en tout cas les mêmes sensations et les mêmes difficultés à la suite de l'infraction.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sensibilisation à faire dans les services de gendarmerie, parce que c'est des crimes sériels, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus difficile en termes d'enquête de police judiciaire, et puis souvent ça atterrit dans le plus bas de l'échelle de l'enquête, c'est-à-dire le service du coin. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses à mettre en place pour avoir des réflexes différents ?
Alors, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est déjà un schéma de médecine légale qui soit efficient en France et qui puisse permettre, en fin de compte, aux victimes de pouvoir avoir des expertises immédiates. Quand vous savez qu'il n'a pas été revu depuis 2010 et qu'on n'a que 33 points médicaux judiciaires en France, ça fait quand même un peu juste. Oui. Donc, permettez de dire que la Fédération France Victimes demande et exige cette revoyure. Mmh. Il y avait le ministre il n'y a pas longtemps sur votre plateau, donc on peut quand même lui adresser ce message. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'il y ait des réflexes et des automatismes de la part des enquêteurs. Mais parfois, encore une fois, ça peut être trop tard quand c'est une semaine. Médicalement, en tout cas, les enquêteurs sont verrouillés. Donc, il faut trouver effectivement d'autres moyens pour investiguer, pour enquêter, pour instruire. Et effectivement, il faut que les victimes parlent et parlent vite parce que, encore une fois, pour elles, c'est une course contre la montre.
Alors justement, Laura, vous voudriez que vous nous remeniez dans cette commune de Saussan. La liste des victimes, 15 officiellement pour l'instant, elle pourrait s'allonger. Comment on analyse ça et comment on vit ça dans cette commune, le fait que d'avoir potentiellement été victime, de connaître l'agresseur présumé. Comment c'est ressenti là-bas?
Oui, bah en fait, c'est vraiment ce problème-là de la soumission chimique dont vous parlez, parce que nous, plusieurs fois, on est allé voir des personnes qui disent « Mais moi, c'était mon jardinier, c'était mon paysagiste, il s'est rendu plusieurs fois à mon domicile. » On a parlé à une personne âgée, une dame d'environ 80 ans, qui nous raconte « Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'étais à ce moment-là ?» Et en fait, on se rend compte que vraiment, elle se pose la question, elle refait le film dans sa tête, et à chaque fois, elle dit « Non, moi, je crois que ça allait, puisque mon mari était là. » Et on sait également qu'on a croisé plusieurs personnes qui nous disent qu'en fait, ce sont bien tous les clients, en fait, de ce paysagiste qui se posent la question, qui se disent « Mais est-ce que j'ai laissé ma fille seule chez moi à ce moment-là? Où est-ce que j'étais ?» Et donc, vraiment, voilà. Donc, c'est un peu ce traumatisme. Et puis, parce qu'on sait qu'il a reconnu une quinzaine de victimes, mais il pourrait peut-être y en avoir plus aussi.
Laurent Valdiguier, en préparant cette émission, a une expression que je reprends à mon compte. Pardon, Laurent. Double face, double visage. Ça colle à cet homme-là, à ce suspect, ce paysagiste?
Tout à fait. C'est un père de famille, marié, père de deux jeunes enfants. Il est connu comme parent d'élèves à l'école maternelle de Saussan. Il exerce une profession où il est connu de ses clients, il boit le café avec eux. Et puis de l'autre côté, on a ce consommateur de cocaïne qui, d'après ce qui ressort de l'enquête à ce stade, a commis une série de faits très rapprochés. Il avait une activité, une double vie assez intense dans ses crimes.
Oui, en plus, à Aix-en-Provence, pas très loin, il y a un hypnothérapeute, pareil, ça a duré très longtemps. Il y a eu des plaintes initialement qui ont été classées sans suite, faute d'éléments, et puis faute des femmes n'ont pas été assez prises au sérieux, en réalité. Et puis, pareil, il notait, il filmait, il était bon père de famille, il était insoupçonnable. C'est pour ça que c'est des affaires qui, jusqu'à l'affaire Pellicot, l'hypnothérapeute, il a été arrêté en 2021.
Alors que les premières plaintes passées sous l'air depuis 2010, depuis 10 ans.
Oui, comment on explique qu'à ce point c'est comme si c'était à la fois un phénomène de masse et à la fois qu'il était sous-estimé.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces histoires de soumission chimique ont démarré dans les milieux festifs et on a quand même plutôt mis au banc les victimes en disant c'est des fêtes, c'est alcoolisé, c'est
drogue récréative détournée.
Voilà. Et donc on n'a pas vu en fin de compte ce qui se passait. Et puis il y a eu quand même un certain nombre de données qui sont arrivées en fin de compte pour prouver l'effectivité et l'intensité en fin de compte, que ce soit le domicile avec l'affaire Pellicot, que ce soit le travail avec et même l'Assemblée nationale, faut quand même le rappeler. Donc
le Sénat.
Que ce soit au sein de la famille, et donc on a vu en fin de compte un déplacement du curseur en disant mais attention, il y a pas que des jeunes hommes et des jeunes filles qui vont être alcoolisés et qui vont se faire abuser, mais en fin de compte c'est quelque chose de sociétalement beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Et on a appris en fin de compte avec le temps. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est très compliqué à un moment donné pour les enquêteurs de se dire voilà, il y a une victime qui arrive, qui dit qu'elle ne se souvient de rien, mais qu'il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, évidemment que en 2010 ou en 2012, lorsque les premières victimes parlent, aujourd'hui on les prendrait plus du tout avec la même considération et avec la même interrogation et le même doute. En tout état de cause, on diligenterait très certainement les enquêtes de manière totalement différente. Et heureusement, j'ai envie de dire, il faut que des erreurs, on puisse en tirer un certain nombre de lignes correctrices, de lignes directrices pour l'accompagnement des victimes.
C'est peut-être pour ça que ça a marché d'ailleurs, parce que fin janvier, immédiatement, les deux femmes sont présentées à la gendarmerie et ensuite les gendarmes les ont immédiatement emmenées à faire des tests, des prélèvements d'urine, etc.
Et je pense que l'affaire Pellicot a montré quand même quelque chose, c'est l'intensité quand même d'un phénomène et le caractère redoutable et inentendable. Enfin, qui aurait pu penser qu'un mari amène 80-90 hommes au domicile pour des viols et les filmer? On retrouve cette logique-là. Et là encore, on a des preuves, que ce soit le Squarneck où on a des écrits, là on a... Voilà. Mais ce qui va être difficile, c'est quand on n'aura rien.
Vous parlez de Joël Squarneck, ex-chirurgien, qui a reconnu cette semaine l'intégralité des plaintes déposées contre lui. 299 victimes. Alors c'était sous anesthésie, ce qui est une forme de soumission évidemment chimique.
C'était une forme de soumission chimique.
Mais ça veut dire que on est dans les affaires hors normes, le Squarneck Pellicot, ou alors c'est une réalité qu'on n'a jamais pu appréhender?
Alors, ces procès sont qualifiés de procès hors normes par le ministère de la Justice, parce qu'ils le sont. En revanche, il ne faut pas dire, il ne faudrait pas envoyer comme message aux victimes que le fait d'avoir été violé à une seule et unique occasion que c'est pas un drame, mais un drame considérable. Et donc, c'est pour ça que ces questions de procès hors normes extraordinaires, je suis toujours un peu gêné d'employer ces mots, même si effectivement, la masse, l'horreur, le caractère inentendable, est clair et net, et il n'y a aucune discussion possible. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut aussi arriver à une personne, un soir, au restaurant, enfin, à la sortie du restaurant, chez elle. Et c'est tout aussi hors norme et ça va être tout aussi compliqué, d'où la nécessité que les victimes ne soient jamais seules.
Avec des points communs, vous me disiez alors.
Oui, avec le grand point commun, c'est que tous ceux dont on parle, Pellicot, le Squarneck et les deux autres, ils sont fétichistes. Ils ont besoin, dans leur perversion, de filmer ou d'écrire ou de prendre en note. Et à la fois, ça dure très longtemps. D'ailleurs,
le Squarneck, tout était notifié, tout était écrit.
C'est des caricatures de Dante de la pédophilie, le Squarneck. Il notait tout dans des moindres détails. Et donc, c'est ce qui compense la longue impunité, puisque quand les enquêteurs, d'où l'intérêt d'aller perquisitionner, de rien prendre, de tout prendre au sérieux tout de suite, puisque quand les enquêteurs tombent sur cette caverne d'Ali Baba du fétichisme, tout d'un coup, ils ont tout. Donc, j'imagine que là, les vidéos en cours d'exploitation, elles vont parler beaucoup.
Exactement, des vidéos concernant la jeune fille mineure. Ces photos ou ces vidéos auraient été effectivement récupérées. C'est le mis en cause lui-même qui a reconnu avoir en garde à vue filmé chacune de ces agressions.
Laura, une dernière question, parce qu'on parle beaucoup des victimes, il y a les victimes directes, il y a aussi des victimes indirectes. On pense à sa femme et à ses enfants. Est-ce que vous avez pu les rencontrer, les voir, les apercevoir? Qu'est-ce qu'on vous a dit de leur état?
Bah nous, en fait, quand on est arrivé, donc on est allé au domicile de ce paysagiste, et puis, bah, en effet, on avait l'impression qu'il y avait du monde à l'intérieur, vraiment, plusieurs personnes qui étaient cloîtrées. On nous a dit après que c'était sa femme, en fait, qui avait appris quelques jours auparavant la nouvelle, et on est tombé sur l'un de ses amis qui a reconnu, à côté de la caméra, qui nous a dit, eh bien, oui, elle est sous le choc, pour elle, c'était absolument terrible, et c'est d'autant plus difficile qu'en effet, bah, ils avaient deux enfants ensemble, un de 3 ans et un autre de quelques mois seulement, selon ce qu'on m'a dit, donc le choc est absolument terrible pour elle. Le choc, il est d'autant plus important qu'il s'était marié il y a seulement un an auparavant. C'est ce que nous a dit le maire de la commune. Et donc, personne ne s'y attendait. On sait que c'est très difficile pour sa femme en ce moment.
Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Je vous remercie également Bastien qui a travaillé avec vous et qui nous a permis d'avoir ces images. Première caméra, puisque nos confrères avaient sorti les faire. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Qui va tenter de répondre à cette question, Laurent? Connaîtra-t-on un jour les circonstances de la mort de Céline Ziboire? Cette lycéenne rennaise retrouvée morte en 2012 au pied des falaises à Saint-Malo, s'est-elle suicidée? A-t-elle été violée? A-t-elle été assassinée? Affaire suivante, nous dit tout dans un instant. A tout de suite.
BFM Radio.
Retour sur le plateau d'Affaires Suivantes pour le cold case de la semaine. Elle aurait dû avoir 30 ans cette année. La vie de Céline Giboire s'est brutalement arrêtée à l'âge de 16 ans en contrebas d'une falaise sur la place des Corbières à Saint-Malo. Et sur les 3 pistes envisagées, criminelle, accidentelle ou suicide, toujours aucune certitude. Fanny Rio.
Le 28 février 2012, le corps de Céline Giboire, 16 ans, est retrouvé en bas des falaises du parc des Corbières à Saint-Malo. L'autopsie conclut à une mort par noyade. Elle montre de très nombreuses fractures dues à la chute et met également en évidence des lésions de nature sexuelle sur le corps de la jeune fille. La veille, Céline, scolarisée en première, quitte subitement le lycée aux alentours de 12h30. Elle fait du stop et prend la direction de Saint-Malo, 70 km plus loin. En début de soirée, des témoins affirment la voir dans le parc des Corbières. 19h, elle passe un unique appel à sa meilleure amie qui ne décroche pas. Puis plus rien. Son corps est aperçu le lendemain matin par des joggeurs en bas des falaises. Un corps situé à une trentaine de mètres de l'impact, la jeune fille est sur le dos, en débardeur, pieds nus. Son sac à main se trouve dans une poubelle du parc, dissimulée sous des branchages. Sa carte d'identité n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs de la police judiciaire de Rennes concluent pourtant, 2 ans plus tard, à un suicide. Impossible, selon la famille de la victime et certains experts, au vu des nombreuses zones d'ombre qui entourent la mort de l'adolescente.
Pouvait-elle, seule, se déplacer entre le point d'impact et les 31 mètres où on la retrouve, en passant par-dessus des rochers? C'est ça la question. Pouvait-elle le faire seule, eu égard à son constat lésionnel, ou est-ce que quelqu'un l'a aidée, quelqu'un l'a portée ou a déplacé le corps?
En 2016, la gendarmerie de Rennes récupère l'enquête, un appel à témoins national est lancé, sans succès. Depuis, plus rien. La famille de Céline Giboire est toujours en quête de réponses sur les circonstances de la mort de l'adolescente.
Laurent, pour en parler, nous accueillons Cyrielle Adam. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisatrice, autrice de ce livre Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, revivez l'enquête, paru aux éditions Larousse, et Jean-Alphonse Richard. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour.
Journaliste et présentateur de l'heure du crime, évidemment, sur RTL. Laurent, on dit souvent que les premières heures, les premiers jours d'une enquête sont cruciaux.
Oui.
Là, visiblement, il y a eu beaucoup, et puis on s'y est perdu.
Là, c'est le prototype de la scène de crime qui n'est pas sécurisée comme elle devrait, puisqu'elle est même rendue aux touristes pendant quelques jours. Elle est piétinée, ils viennent récupérer des mégots plus tard. Donc c'est le prototype de ça, et puis c'est le prototype de la mauvaise conviction, puisqu'ils sont convaincus, les enquêteurs initiaux, Jean-Alphonse, qui connaît cette affaire par cœur, ils sont convaincus qu'il s'agit d'un suicide. Donc ils vont d'abord enquêter pour confirmer leur conviction du suicide.
Le suicide, effectivement, c'est ce qui apparaît tout de suite parmi les enquêteurs. Le médecin, il n'est pas très sûr de ce qu'il voit et de ce qu'il peut analyser sur place. C'est très troublant, cette scène, parce qu'on sait que cette jeune femme, elle a dévalé cette pente, ça c'est une certitude. Est-ce qu'elle a été poussée ou est-ce qu'elle s'est jetée depuis la falaise? Ça, il y a une grande question. On va la retrouver 32 mètres plus loin que le point d'impact. Alors, ça veut dire deux choses. Soit on a transporté ce corps, parce qu'elle a fini par se noyer. Elle est vivante lorsqu'elle touche le sol. Elle est blessée, horriblement blessée, mais elle est vivante. Elle va finir par se noyer dans une espèce de... D'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup d'eau. On va retrouver
des centimètres
dans l'eau. Voilà. Est-ce que c'est elle qui a réussi, en se posant sur un seul bras, à ramper et à aller se mettre dans l'eau pour terminer son suicide, en quelque sorte, ça paraît totalement invraisemblable. Et pourtant, c'est une thèse qui va continuer à prospérer. La famille, évidemment, n'y croit pas.
Ouais.
On va s'apercevoir que c'est pas possible, presque techniquement, mais c'est une thèse qui va prospérer.
Jusqu'à quand elle va prospérer? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va moins prospérer d'un seul coup?
Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a il y a une nouvelle juge d'instruction qui est arrivée sur ce dossier, la huitième. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que la famille, les Giboire, se sentent écoutées, entendues. C'est une famille qui a été extrêmement maltraitée par la justice, notamment au tout début de l'affaire. Et là, ils ont l'espoir d'avoir enfin quelqu'un qui va poser les bonnes questions et oser peut-être contredire des thèses invraisemblables.
En me penchant évidemment sur ce dossier, on parle de cette thèse du suicide. Mais il y a quand même des analyses médicales qui sont complètement effarantes et qui vont être contredites. Qu'est-ce que ça dit dans un premier temps? Qu'est-ce que ça dit dans un second temps? Et comment on explique cette différence?
Médicalement, c'est vrai que le dossier, il est chaotique et il est effarant. Et on comprend la famille Giboire qui ne s'y retrouve pas et qui ne comprend pas ce qui se passe. Puisque la première autopsie, elle est faite assez rapidement. On conclut à peu près à rien. C'est-à-dire que, par contre, le médecin dit qu'elle a sans doute été violée. Oui. Il y a des traces...
Ce qui est un élément évidemment important.
D'attaque sexuelle.
Qui ouvre l'enquête.
D'attaque sexuelle. Le corps est donné à la famille. Il y a un obstacle judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction d'inhumer pendant qu'il va durer très peu de temps. Le corps est remis à la famille. Il y a une inhumation. Et Céline Giboire, elle est exhumée 10 jours après l'inhumation.
C'est très rapide.
C'est le seul dossier où je connaisse où il y a une exhumation aussi rapide. Et ensuite, un an et demi plus tard, on va donner à étudier aux gens de l'Institut médico-légal de Paris, qui sont des grands spécialistes, on va donner le dossier pour savoir est-ce que cette jeune femme, est-ce que c'est plutôt le suicide qui prévaut, est-ce que c'est plutôt un acte criminel qui prévaut. Et effectivement, ces spécialistes vont indiquer que c'est sans doute un suicide, et que ces fameuses traces d'agression sexuelle, en fait, ça serait le fait qu'elle ait ripé le long de la falaise, ce qui expliquerait ses blessures. Alors, entre nous, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose.
La contre-perspective.
Oui, parce que les spécialistes ont travaillé sur dossier, uniquement sur dossier, ils n'ont jamais expertisé le corps ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, là aussi, ça va faire long feu. Mais on a perdu beaucoup de temps dans cette enquête, énormément de temps depuis le début.
Il n'y a rien qui va non plus dans l'après-midi de la disparition. Parce qu'en fait, elle quitte son lycée à 12h15.
Elle est interne.
Elle est interne, Rennes. Elle n'a aucune raison connue à ce jour de quitter le lycée.
Il y a des petites disputes avec des copines suite à un voyage en Roumanie.
Et puis, toute cet après-midi, elle a un comportement un peu anormal avec son téléphone. Elle qui répond tout le temps, on imagine. En 2012, une adolescente de 16 ans, elle est sur son téléphone, elle répond, elle passe des messages. Donc, on voit bien que ce trajet entre Rennes et Saint-Malo et son comportement habituel avec le téléphone fait soupçonner légitimement à la famille quelque chose, bien non sûr. Une mauvaise rencontre.
Mais il y a deux choses qui sont étonnantes. C'est tout d'abord, Céline semble vouloir se rendre à Saint-Malo, mais elle s'arrête à Saint-Dominique, qui est une petite commune qui est située entre Saint-Malo et Rennes. Là, arrivée à Saint-Dominique, elle prend en photo le plan de la commune.
Le panneau d'entrée. Oui.
Personne ne comprend pourquoi elle fait ça. Pourquoi est-ce que ce panneau est important? Si elle prend une photo, c'est que le panneau a une importance pour elle à ce moment-là. Et la deuxième chose qui est quand même très étrange, c'est qu'on sait qu'elle n'a pas pris le bus, de manière à peu près certaine, et personne n'a jamais dit « j'ai pris cette jeune fille en stop ». Il y a des témoins qui disent « je pense l'avoir aperçue le long, au bord de cette fameuse route départementale », mais personne n'a jamais dit « je l'ai emmenée jusqu'à Saint-Malo ».
Avec les téléphones, on ne peut pas suivre des téléphones, le sien et un autre.
Alors le téléphone, il n'a pas été totalement expertisé, ouais. Là aussi c'est un
ça
mystère.
Ça fait partie des problématiques.
C'est un mystère, etc. On sait que la téléphonie, elle donne ce cheminement, elle le donne, entre 12h32 et 18h52, très exactement, c'est là où elle appelle sa copine Audrey.
Il ne répond pas,
malheureusement. Audrey ne répond pas, Audrey est en train de faire ses cours, etc., ses devoirs, et elle ne répond pas parce qu'elle est occupée. Donc, elle rate cet appel, qui a l'air important, puisqu'elle appelle Audrey, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'elle est aperçue par des témoins à Saint-Malo. Là, on est déjà à Saint-Malo, on ne sait pas du tout comment elle est arrivée à cet endroit-là. Il y a une femme qui va dire la voir sortir d'une voiture, et puis il y a un couple... intéressant, le couple, puisqu'il va se retrouver en garde à vue, un couple qui la voit fumer des cigarettes sur un banc. Voilà, on est dans la soirée.
Toute seule ?
Toute seule. Et elle pleure. Toute seule et elle pleure. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ces témoignages, ils sont plutôt dignes de foi. On va retrouver 3 mégots de cigarettes qu'elle a fumées. Également, un autre mégot de cigarette qui appartient à la femme du couple, qui a l'habitude de venir fumer ici. Donc, voilà. Donc, tout ça est très, très, très mystérieux. Quand vous disiez tout à l'heure, ce sont les premières heures qui comptent dans une affaire, là, ce sont les premières minutes. Parce que les premières minutes, on les perd. On les perd tout de suite. On ne sait pas ce qu'elle a fait à la sortie du lycée.
Qu'est-ce qui fait que ce couple, qui est placé en garde à vue, est totalement blanchi? Et qu'est-ce qui fait qu'on a évoqué aussi comme suspect un homme et que lui aussi, est totalement blanchi, d'un comme l'autre.
Le fait que toutes ces personnes soient mises hors de cause, c'est le reflet parfait de tous les loupés de ce dossier. C'est-à-dire qu'on ouvre des pistes, qu'on les referme jamais totalement parce qu'on n'a pas d'éléments. Effectivement, on a ce couple qui est mis en garde à vue. Lui, il est connu de la justice, défavorablement.
Dans une histoire d'homicide.
Tout à fait. Mais ils sont placés en garde à vue 8h45, ce qui est extrêmement court quand même dans ce genre de dossier.
C'est 24 heures plus 24 heures, sous contrôle de l'an.
Là, ça va très vite. Ils sont mis hors de cause parce que, mis à part ce mégot d'ADN et une revue de presse pour le moins obscure qu'on retrouve à leur domicile, concernant Céline Giboire, il n'y a absolument rien.
Et leur réponse est assez, quand on leur dit « mais pourquoi vous avez ces documents-là sur Céline Giboire ?» Qu'est-ce qu'ils répondent,
Jean-Alphonse ? C'est vrai que chez eux, on trouve tout le dossier Céline Giboire, qui est surligné, etc., annoté. Ouais. La femme va répondre « je suis passionné de faits divers voilà, ». Donc ça va être une réponse, on va s'arrêter là. Il y a plus intéressant, je pense, c'est le jeune homme. Ouais. Il a 21 ans, et il s'appelle Florian Varin, on peut le dire, parce que c'est lui qui a été condamné pour des viols, etc., un peu plus tard.
Et tentative de meurtre.
Donc, ce garçon, il est très intéressant. 8 mois après la mort de Céline Giboire, il va attirer l'attention parce qu'effectivement, il a violé une femme à Toulouse. Il va être arrêté. Et on va s'apercevoir qu'à l'époque, il est dans le secteur entre Saint-Malo et Rennes. Il travaille comme apprenti mécanicien dans un petit garage du coin. Il est très charmeur, Florian Varin. C'est quelqu'un qui n'agresse pas directement les femmes comme ça. Il est très affable, très charmeur. Il arrive à se mettre souvent ses victimes dans la poche. D'ailleurs, le papa de Céline va dire elle aurait pu
se laisser avoir
pour cet homme parce qu'elle ne se méfiait pas, ma fille. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, cette piste, pareil, il va être entendu. Lors du procès, on va même lui poser des questions là-dessus. À ce jour, il n'y a rien. À ce jour, on ne trouve pas de correspondance, à part la correspondance géographique et physique.
Qu'est-ce qui pourrait faire, Jean-Alphonse, que cette affaire soit débloquée?
Il faudrait, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, mais je pense qu'il y a tout un travail sur l'ADN qui est à faire. Il y a beaucoup d'objets de Céline qui ont été retrouvés, notamment une carte vitale dans des rochers, etc. Là, il y a un vrai travail à refaire, un vrai travail d'expertise, et puis de recoupement géographique, encore une fois, de possibles suspects. Je pense qu'il faut revenir sur les gens qui ont déjà été entendus, les réentendre, etc. Mais la juge d'instruction... vous le disiez, elle est très efficace. Elle a envie de progresser.
En sachant que ce dossier, il a quand même une faille aujourd'hui, qui est que dans tous les scellés qui avaient été récupérés à l'époque, certains d'entre eux ont été détruits, notamment les mèches de cheveux qui appartenaient à Céline. Ces scellés ont été détruits. Donc l'ADN, c'est bien. Mais on part avec une nouvelle complexité encore qui vient s'ajouter.
Ça fait partie souvent des dossiers, on dit l'auteur des faits est dans le dossier, on le connaît. Ça ressemble un peu à ça quand j'écoute.
C'est pour ça que le Paul Kolkhaas débloque des affaires, ouais. Parce qu'en réalité, tout notre système judiciaire est fondé sur la Révolution française, un juge d'instruction dans les périmètres d'un département, et la définition du département, c'est une journée de cheval de la préfecture. Mmh. Donc tout est fait pour qu'on soit tous à une journée de cheval de la préfecture.
Ce que vous dites, c'est pas du tout du deuxième degré ironique, c'est vraiment comme ça que c'est fait.
Il y a 8 juges d'instruction, il y a des affaires qui sont complexes, il y a des homicides où on sait que c'est dans le cadre familial, on va trouver vite, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, dans le cadre familial on trouve assez vite, il y a des affaires qui sont complexes d'entrée. Celle-là, elle est complexe d'entrée, et d'entrée, elle nécessite une expertise, justement, dans ce qui est ADN, dans ce qui est recherche, dans ce qui est usage des téléphones et tout ça. Et là, ça n'a pas été fait, malheureusement. Le Paul Kolkhaas a été créé pour ça, pour essayer de remonter le temps perdu, notamment grâce à des scellés. Mais là, les scellés sont pour la plupart perdus, et ça marche.
C'est ce que souhaite la famille de Céline, aujourd'hui. Une reprise par le Paul Kolkhaas, une évolution, un retour à zéro
Non, ils ont maintenant comme avocat Didier Seban, qui travaille beaucoup avec le Paul Kolkhaas. Mais eux, leur volonté, c'est d'avoir un juge d'instruction qui va être à l'écoute, en fait. Et que ce soit au Paul ou à Rennes, tant qu'ils ont quelqu'un qui va les écouter et qui va aussi leur expliquer pourquoi on fait certains actes, pourquoi on suit certaines pistes et pas d'autres, ça pour eux, c'est primordial aujourd'hui.
Jean-Alphonse, est-ce que vous pensez, c'est une question qu'on vous pose traditionnellement sur le plateau d'affaires, mais est-ce que vous pensez qu'un jour on saura
Je vous coupe tout de suite. Je suis très optimiste, moi. Moi, je pense que dans cette affaire, il y a plein d'indices. Il y a plein de témoignages. Il y a beaucoup de choses dans le dossier. Moi, je pense que la vérité, elle est dans le dossier déjà. Comme très souvent, hélas. Et on voit pas cette vérité à l'instant, mais bon. On fait confiance à la 8e juge d'instruction. Elle a envie de se battre, c'est une bonne chose.
Cyril, la famille de Céline, elle est dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas?
Elle est très combative. Ouais. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas, qui ont beaucoup morflé, à qui on a dit « Votre fille a un DVD de Virgin Suicide dans sa chambre, donc c'est forcément qu'elle s'est suicidée ».
Un film avec c'est une famille des sœurs, je crois, qui s'est suicidée en série, pardon, de mémoire.
C'est vraiment... On n'est pas sur un élément de preuve tangible.
Oui, non, effectivement, on peut avoir vu ce film-là et l'adorer sans...
Et la famille, ce sont des gens qui sont très respectueux de la justice, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont envie d'être écoutés, mais si demain on doit leur dire quelque chose qui pour eux est même inentendable, mais si on leur apporte la preuve que c'est ainsi, ils sont prêts à tout entendre en fait. Ils veulent juste que la vérité soit faite.
Et c'était le sens aussi de notre invitation. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Je renvoie les téléspectateurs dans le cadre de votre livre co-écrit avec Marion Garnier, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. Revivez l'antenne. Merci à tous les deux. Laurent, nous allons accueillir l'invité de la semaine. Il va être également question d'un livre. Merci, je vous laisse quitter le plateau. On va accueillir dans un instant celui qui était juge d'instruction, procureur de la République, procureur général. Le livre de la semaine. Bonjour Jacques Dallest, merci d'être sur le plateau, magistrat honoraire. Bonjour. Vous avez été juge d'instruction, procureur de la République, procureur général. On a beaucoup parlé il y a quelques instants du Paul Kolkhaas, affaire non résolue de Nanterre. Vous avez été à l'origine de la création de ce Paul Kolkhaas. Je présente donc votre ouvrage sur les chemins du crime, paru aux éditions Marie, avec une préface que je conseille de Martine Monteil, qui a été la première femme à diriger la police judiciaire et qui était venue s'en expliquer évidemment sur les plateaux de BFM TV. Première question avant de rentrer dans le détail de ces 42 affaires que vous évoquez, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Pourquoi vous écrivez ce livre aujourd'hui?
Alors j'en écris d'autres, peut-être parce que j'ai envie de me vider l'esprit, vider la tête. Mais surtout aussi d'expliquer à mes concitoyens, qui pour certains d'entre eux seront peut-être un jour jurés de cour d'assises, ce qu'est un crime de sang et quel est le processus judiciaire qu'ils auront peut-être à juger et à apprécier.
Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne dans un instant. On a vraiment l'impression que vous nous mettez dans cette position de juré d'assises qui est extrêmement impressionnant. Mais avant cela, vous dédiez ce livre aux victimes de façon générale, et notamment à la petite Maëlys, assassinée par Nordal Le Lannais. C'est votre dernière affaire, ce que vous expliquez. Et voici ce que disait, au moment du procès, Maître Fabien Rajon. C'était l'avocat des parents de Maëlys. Voici ce qu'il disait sur vous.
Ces réquisitions sont lourdes, mais elles sont logiques et attendues. Je crois que Monsieur le procureur général, avec le ton qui est le sien, sans excès sur la forme, sans excès non plus sur le fond, a requis la peine juste.
La peine juste, les mots justes, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on doit s'exprimer dans ce type de situation.
Oui, parce qu'on est tous envahis par l'émotion, que ce soit procureur, avocat général, avocat de la défense, et il faut essayer de trouver, de garder une certaine sérénité pour proposer une solution, une explication, et en ce qui me concernait, de proposer une peine.
Oui, c'était d'ailleurs pour raconter un peu les coulisses de votre réquisitoire dans ce livre, la façon dont c'est difficile, la façon dont vous le vivez pendant, vous essayez de pas vous emporter, c'est assez touchant.
Nous restons des êtres humains, parce qu'on pense toujours au magistrat, un froid, un peu distant, hautain, et malheureusement, ça peut être le cas.
Mais en tout cas, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est souvent l'image qu'on a.
Et oui, parce que le magistrat doit garder son impartialité, sa maîtrise des choses, mais il faut pas oublier que ça reste, nous restons des êtres humains, avec, encore une fois, nos émotions, nos erreurs, nos maladresses, voilà, et je crois qu'il faut le rappeler à nos concitoyens aussi.
Alors, cela dit, c'est vraiment une affaire d'homme, hein, parce que c'est... Le criminel est un homme. Vous donnez quelques cas de femmes. Alors les femmes dont vous parlez, elles ont toutes plein de raisons en réalité, puisque c'est souvent dans le cadre familial. Ouais. Et puis l'enfer, c'est la famille, puisque l'essentiel de vos meurtres, il se passe en famille.
Oui, c'est-à-dire une grande majorité des homicides sont des homicides de proximité, des homicides familiaux, où là, c'est un déchaînement de violence du mari sur son épouse, sur les enfants, et c'est ce que nos concitoyens, là aussi, peuvent rencontrer. Plus que le tueur en série ou le tueur à gages.
Il y a quelque chose qui est à la fois passionnant et effrayant, c'est à quel point, dans ces affaires, ce sont des gens ordinaires. Pardon, des gens comme vous, comme Laurent, comme moi, qui, à un moment, deviennent extraordinaires dans la violence, dans le passage à l'acte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décrypté, analysé ce qui fait la différence entre quelqu'un qui passe à l'acte et quelqu'un qui ne passera pas à l'acte ? Est-ce qu'il y a quelque chose ?
Non. Je crois que Laurent Valdiguier le sait bien aussi. Qu'est-ce qui déclenche le passage à l'acte? C'est le grand mystère. Et même après un certain nombre d'années d'exercice, je me pose toujours la question, pourquoi une personne, le matin, avec plein de projets, deviendra meurtrière l'après-midi? Alors, il peut y avoir l'enfance, des problèmes psychologiques, personnels, mais il y a ce grand basculement, suite à une phrase malheureuse, quelque chose qui déclenche. Et tout être humain, je crois, et surtout les hommes, détiennent un potentiel de violence et d'agressivité qui explose. Par moment.
C'est vrai que c'est le mystère de tout procès. À la fois, il y a des cas où vous expliquez bien que le boulot du juge d'instruction, c'est de voir à quel point ça remonte à loin. Et puis, il y a d'autres cas où il n'y a pas d'explication. Mais ce que j'ai apprécié dans votre livre, au-delà de la technicité du droit et tout ça, c'est que vous dites souvent que compte pour vous votre impression. Et oui. A fortiori, votre première impression quand il y a quelqu'un qui rentre.
L'impression qu'on a comme juge d'instruction, quand on voit et on devra questionner un individu, l'impression qu'on peut avoir aussi au moment du procès sur l'accusé. Alors l'impression, elle ne fait pas tout. Ça renvoie aussi à l'intime conviction du juge. Certains font bonne impression, peuvent être de sinistres individus. Et au contraire, ceux qui ont une sale tête peuvent être des gens finalement ordinaires et pas si violents que cela. Mais c'est vrai, nous restons encore une fois des êtres humains. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera les magistrats, ce qui serait peut-être pas forcément souhaitable. Et là, il n'y aura plus d'impression. Ce sera très objectif.
Vous dites l'impression. Procès de Cédric Jubilard en septembre, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Est-ce que le fait qu'on puisse avoir une impression fait qu'on a aussi un trajet judiciaire différent par rapport à ce type de personnes?
Oui, alors, de toute façon, l'impression, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va fonder une décision. L'examen d'un dossier, les éléments à charge, à décharge, on reste aussi sur un travail rationnel, relativement scientifique, qui doit être cartésien, je dirais. L'impression ne fait pas tout, mais c'est quand même les jurés qui auront à décider dans l'affaire Jubilard ce qu'ils penseront de la culpabilité de l'intéressé, et dans leur fort intérieur, ils devront trouver une explication, une solution, et là, on retombe sur l'impression.
Vous avez quand même un cas de quelqu'un qui a fait exploser sa femme dans une voiture où là, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas d'ADN au sens comme on l'entend tout le temps. Et vous dites que là, vous aviez un faisceau. Oui. Expliquez-nous ce que peut être un faisceau d'indices à la place d'une preuve tangible.
Faisceau d'indices, faisceau de présomption, c'est quand on n'a pas d'aveu, de preuve absolument déterminante, mais on a un certain nombre d'éléments, souvent matériels, qui juxtaposés amènent à une conviction. C'était exactement ce qui s'est passé avec cet individu, j'en cite d'autres, souvent un peu psychopathe, très froid, pas d'empathie, et il faut débusquer cette vérité, et on va rechercher dans le dossier ce qu'il y a contre ces personnes. C'est le faisceau d'indices.
42 meurtres dans votre dernier ouvrage. Moi, j'ai trouvé deux affaires dont je me suis dit, je sais qu'il y en a une, parce que je vous entends le dire, mais dont vous aviez sans doute, pour des raisons différentes, envie qu'elles aboutissent. Il y a la disparition de Muriel Théron, cette jeune lycéenne lyonnaise à Lyon, qui est retrouvée violée et tuée. Et puis aussi la tuerie de Chevaline. Vous êtes au Savoyard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont deux affaires qui, pour des raisons d'ailleurs, dont peut-être vous allez nous parler, mais font qu'il y a un prisme particulier pour quelqu'un qui est comme vous habitué à des situations aussi exceptionnelles, aussi dramatiques, parfois aussi morbides?
Bien sûr, malheureusement j'en ai connu d'autres, comme beaucoup de mes collègues. 1993, Muriel Théron, l'affaire est toujours en cours au pôle de Nanterre. J'étais le premier juge d'instruction, et c'est une affaire qui me reste beaucoup en tête. 2012, c'est l'affaire de Chevaline, une affaire très différente, et on est toujours sur une énigme. Qui est, quels sont les auteurs? Alors on peut espérer qu'un jour la vérité éclatera, mais c'est un long cheminement, et je pense toujours aux proches, aux parents de la petite dont la maman est décédée, de la petite
Muriel.
Muriel, la famille, les familles des victimes, c'est se dire, elles sont dans des attentes pour l'une, ça fait plus de 30 ans quand même. Et la justice se doit de les écouter, d'aller vers elles. Souvent, les victimes se plaignent que la magistrature, les magistrats soient trop lointains, ne soient pas accessibles. Faire preuve d'humanité malgré la charge de travail, c'est aussi un combat permanent et il faut que les magistrats s'imprègnent de cela.
C'est vrai que vous avez été à l'initiative du pôle Colcaise, hein, que tout le monde salue aujourd'hui pour ses réussites, sa compétence. Est-ce que vous ne pensez pas que certains crimes, c'est vrai qu'on balaye tous les crimes dans l'environnement familial qui sont assez faciles en réalité à résoudre. Est-ce que vous ne pensez pas que face à certaines scènes de crimes où on va d'entrée dans les 48 premières heures éliminer les pistes familiales, les pistes faciles, il ne faudrait pas une expertise des juges d'instruction qui soit, disons, un peu plus spécialisée que le hasard de la désignation?
Alors maintenant, il y a
terrorisme, narcotrafic, des choses plus
spécialisées. Voilà. Il y a maintenant des magistrats spécialisés pour les affaires anciennes, les fameux cold cases.
Oui.
Tout magistrat de n'importe quelle ville peut être saisi d'un dossier. Le juge qui interviendra après le procureur, il faut qu'il puisse avoir une vision à la plus neutre possible de l'affaire. Pas d'a priori, pas de... Il y a trois situations. Il y a l'homicide clair, il y a la disparition de personne et il y a le décès suspect. C'est le pire des choses. Vous en avez parlé avec l'affaire Céline Giboire, où là, on peut vite partir sur une mauvaise piste et on revient plus en arrière. C'est un suicide, c'est un accident et en fait, c'était un meurtre. Donc, si on a l'esprit libre de tout a priori, c'est un gage de réussite et c'est pas toujours simple.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors, la création du Paul Cold Case, mais aussi les progrès de la police scientifique font, il y a d'autres éléments, mais font qu'on aura moins de tueurs en série parce qu'on arrivera à arrêter les séries avant que ça devienne une vraie série? Est-ce que c'est possible?
Peut-être. D'ailleurs, on ne débusque beaucoup moins de tueurs en série ces derniers temps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Pensons à toutes les disparitions, qui sont pour certaines des disparitions criminelles. Cela dit, on a un certain nombre d'assassins qui laissent des traces derrière eux, qui ne le laissaient pas dans le passé. Pourquoi? Le téléphone portable, les cartes, la vidéo. Et aujourd'hui, tout individu peut à un moment être dénoncé, on l'a vu dans les affaires récentes, par la propre technologie qu'il porte. Ça, c'est une belle aide à l'enquête. Dans les années 80, 90, ce n'était pas le cas. D'où le grand nombre de cold cases de cette période.
Quel conseil vous donneriez à un accusé entre le n'avouez jamais, qui est quand même souvent le cas, et excusez-vous?
Le conseil que je lui donnerais, c'est de dire ce qu'il a envie de dire, bien sûr, mais de réfléchir, s'il est bien coupable, évidemment, à des aveux, faute avouée, t'as moitié pardonné. C'est assez vrai en cour d'assises. Les jurés sont très sensibles à un accusé plein de contrition, qui dit « oui, j'ai fait ça pour telle raison ». S'il se mure dans ses dénégations, ça peut être lourd de conséquences pour lui. Aller faire quelques pas vers la vérité, vers les jurés, c'est toujours bien apprécié par ceux-ci. Il faut qu'ils y pensent si possible.
Vous y répondez en partie, mais quel conseil vous donneriez aux citoyens que je suis qui se retrouveraient en tant que juré d'assises?
De se documenter, de lire, de comprendre comment fonctionne la justice. Ces personnes vont être plongées dans un drôle d'univers extrêmement lourd. Pendant 3 semaines, les jurés se sont plongés dans l'affaire Maïlys, qui était très lourd pour eux. Et donc de réfléchir aussi, la justice, ce n'est pas Yaka Faucon, c'est pas la justice du café du commerce, c'est d'essayer de peser le pour et le contre. C'est un redoutable, une redoutable tâche qui leur est demandée.
J'ai une dernière question avant de vous libérer, de clore cette émission. Vous avez vu des gens déchiqueter à la Kalachnikov quand vous étiez en poste à Marseille. Vous êtes penché sur le corps sans vie du préfet Erignac. Vous avez lu des descriptions de choses extrêmement compliquées. Est-ce qu'à titre personnel, vous dites c'est aussi une forme d'exutoire, mais comment on arrive à... Question de journaliste qui n'a pas vu cela, mais comment on arrive à surmonter cela, à travailler et à se dire pendant 10, 20 ans, 30 ans, c'est ma vie, c'est mon quotidien et c'est mon devoir.
On s'endurcit, forcément. Je me suis endurci, mais comme beaucoup de mes collègues, mais j'ai pas eu toujours des nuits faciles. Mm-hmm. Quand vous êtes à 1h du matin sur une scène de crime épouvantable, si, quand vous vous couchez, vous avez encore beaucoup d'images qui vous restent. Et je crois que c'est presque naturel. Il faut pas que ça vous envahisse, sinon il vaut mieux changer de fonction. Voilà, cette rencontre permanente avec la mort brutale, c'est le lot commun des juges, des procureurs aujourd'hui.
Merci beaucoup Jacques D'Aeste. Avec Laurent, on renvoie les téléspectateurs. Laurent qui m'a prêté son exemplaire. Sur les chemins du crime, merci d'avoir aidé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laurent. Rendez-vous pour Affaires suivantes la semaine prochaine. Ce sera le retour de Dominique Rizet. Bon après-midi, l'après-info, Anne Seftel.